Huitième époque. Paris, 16 septembre 1800. J'ai ramené ma sœur au bras de son époux. Que ce retour fut triste, et pourtant qu'il fut doux. Comme ces beaux enfants, sur ces genoux de femme, des larmes au bonheur faisaient flotter cette âme. Sous la morne couleur de sa robe de deuil, que de joie en son sein, d'amour dans son coup d'œil. Dans le cœur de la mère, hélas, la vie est double. Quand son passé se ferme et son couchant se trouble, elle voit l'avenir plein de jour et d'espoir. Du front de ses enfants rayonner sur son soir, son âme, pour aimer sur eux, se multiplie. Chaste amour, dans ta coupe il n'est donc point de lit. Paris, 20 septembre 1800. Avant de retourner à mon nid pour toujours, ils veulent me garder avec eux quelques jours, pour que ma pauvre sœur, par degrés, s'accoutume aux séparations, et puis, je le présume, pour qu'avant de rentrer dans mon obscur réduit, mon oreille du monde ait entendu le bruit. Comme au pied de la dune, on monte sur la crête pour écouter la vague et pour voir la tempête. Oh, que le bruit humain a troublé mes esprits! Quel ouragan de l'âme il souffle dans Paris! Comme on entend de loin sa grande voix qui gronde, pleine des mille voix du peuple qui l'inonde, semblable à l'océan qui fait enfler ses flots, monter et retomber en lugubres sanglots. Oh, que ces grandes voix des grandes capitales ont de cris douloureux et de la clameur fatale, d'angoisse, de terreur et de convulsion. On croit y distinguer l'accent des passions qui, soufflant de l'enfer sur ce million d'âmes, entrechoquent entre eux ces hommes et ces femmes, font monter leur clameur dans le ciel comme un flux, ne ferme qu'un seul cri de mille cris confus, ou qu'on entend le bruit des tempes de la terre, que la fièvre à grands coups fait battre dans l'artère. Quel poids pèse sur l'âme en entrant dans ces murs, en voyant circuler dans ces canaux impurs, ces torrents animés, cette vague humaine, qu'un courant invisible en sens contraire entraîne, qui sur son propre lit flotte éternellement, et dont sans voir le but on voit le mouvement. Quel orage néant, quelle mer de tristesse, chaque fois que j'y rentre, en me glaçant m'oppresse. Il semble que ce peuple où je vais ondoyer, dans ces gouffres sans fond du flot va se noyer. Que le regard de Dieu me perd dans cette foule, que je porte à moi seul le poids de cette houle, que son immense ennui, son agitation, m'entraîne faible et seul dans son attraction, que de ses passions la fièvre sympathique, en côtoyant ce peuple, à moi se communique, que son âme travaille et souffle dans mon sein, que j'ai soif de sa soif, que j'ai faim de sa faim, que ma robe en passant se salit dans ses crimes, et que tourbillonnant dans ses mouvements abîmes, je ne suis plus pour lui, plus qu'une goutte d'eau, qui ne fait ni hausser ni baisser son niveau, un jet de son écume, un morceau de sa vase, une algue de ses bords qu'il souille et qu'il écrase, et que si je venais à tomber sous ses pas, cette foule à mes cris ne s'arrêterait pas, mais comme une machine à bon son bruit lancé, passerait sur mon corps sans même une pensée. Et puis, faut-il le dire, il est ici pour moi un éternel sujet de tristesse et d'effroi. Je me prends sur sans cesse à penser à me dire, tout tremblant, c'est ici que Laurence respire, c'est ce bruit qu'elle entend, c'est ce ciel qu'elle voit, ce pavé qui la porte et cette eau qu'elle boit. C'est dans cet océan, dans ce désert immonde, que cette perle pure est enfouie au monde. Quand je lève mes yeux vers ces brillants séjours, dont les flambeaux le soir ressuscitent les jours, je me dis, en voyant une ombre à la fenêtre, cette ombre que je vois, c'est la sienne peut-être. Chaque char en roulant me semble l'emporter. Ce coude que le mien le soir vient de heurter, la trace de ses pieds, la robe que je froisse, qui sait si ce n'est pas une poignante angoisse de chaque aspect pour moi sort et vient m'assaillir. J'entends des sons de voix qui me font tressaillir. J'entends des mots qui font rougir jusqu'à mon âme. Je frémis de lever les yeux sur une femme. Je tremble qu'à son front rencontré par hasard, mon cœur ne meure en moi, foudroyé d'un regard. Puis je rentre, l'esprit courbé de lassitude, mais poursuivi des cris de cette multitude, trouvant l'isolement, mais jamais le repos, le cœur amer et vide et plein de mille échos. Le bruit assourdissant de l'humaine tempête monde, gronde sans cesse et m'enivre la tête. Et seul, sans qu'il me tombe une goutte de foi, j'entends à peine, hélas, mon cœur qui brille en moi. Ô nuit de ma montagne, heure où tout fait silence, sous le ciel et dans moi, lune qui se balance sur les cimes d'argent du pâle peuplier, que la laine du lac à peine a fait plier. Blanche lueur du ciel sur l'herbe répandue, comme du lin lavé les toiles étendues. Des brises ou de l'eau, furtifs bruissements, des chiens par intervalle, un lointain aboiement. Le chant du rossignol par note sur des cimes. Silence dans mon âme, ou quelques bruits intimes qu'un calme universel vient bientôt assoupir, et qu'un retour vers Dieu change en pieux soupir. Ô jour d'un saint labeur, douce nuit de Val-Neige, ô que le temps me dure, ô quand vous reverrai-je. Paris, 21 septembre 1800. Quel spectacle, Seigneur, vous donnez à vos anges dans ces grands chocs d'idées et ces luttes étranges. Sur ce peuple, qui peut savoir votre dessein? Vous avez mis, grand Dieu, deux âmes dans son sein, l'une d'un vague instinct vers l'inconnu guidée, sonde de la mer du doute et découvre l'idée, lui donne en pétrissant le verbe dans sa main, la forme qui la rend palpable au sens humain, la tire comme l'or de sa mine profonde et la frappe en monnaie à l'usage du monde. L'autre âme de soldat, toujours ferme et debout comme un volcan divin dans sa poitrine boue, aspire aux quatre vents le souffle de la guerre et pour champ de bataille a pris toute la terre. Et par cette âme double, à la fois agissant, il sert Dieu de son cœur et l'homme de son sang. Semblable de nos jours au peuple de Moïse, quand de part au combat le prophète divise, l'une dans le vallon mourant pour Israël, l'autre sur les hauteurs levant les mains au ciel. Pour lancer tous ses fils à la lune illégale, Paris semble des camps la grande capitale. On voit par chaque porte entrer ses bataillons, renaissante moisson de ses sanglots sillons, qui pour combler au camp les lignes décocimées ressortent en chantant vers les 14 années. On ne voit qu'étendard par le plomb déchiré, entraînant des soldats sur leurs lambeaux sacrés. On entend retentir que le canon sonore, dont les boulets vomis, la gueule est pleine encore, et la ville le voit briller à son réveil, que d'épaisses forêts de fusils au soleil. Et comme cette foule est prodigue de vie, et comme tout à coup au grand homme m'a servi, elle, qui ne pouvait subir un joug plus doux, du tyran de sa gloire embrasse les genoux, sous son geste nerveux d'elle-même s'incline, accepte sans effort sa rude discipline, et semble, en se pliant à son poignet d'airain, le coup de son cheval ou le grand de sa main. Ah, c'est qu'aussi le peuple, à cet instant rapide, qui le fait s'élancer sur les pas de son guide, c'est que dans le péril, la faible humanité de Dieu même a reçu l'instinct de l'unité, et que pour ériger en grand peuple une foule, le bronze extravasé doit couler dans le moule. Où les pousse pourtant ce vague entraînement? Pourquoi vont-ils combattre et mourir si gaiement? Leur esprit ne sait pas, leur instinct sait d'avance. Ils vont comme un boulet où la force les lance, ébranler le présent, démolir le passé, effacer sous son doigt quelque empire effacé, faire place sur terre à quelque destinée invisible pour nous, mais pour toi déjà né, et que tu vois déjà splendide, où nos esprits n'aperçoivent encore que poussière et débris. Ainsi, Seigneur, tu fais d'un peuple sur la terre l'outil mystérieux de quelque grand mystère, sans connaître jamais ses plans sur l'univers, à la trame des temps travaillant à l'envers. Les nations de l'œil, à leur insu guidées, sont dans la main de Dieu les instruments d'idées. Et l'homme, qui ne voit que poussière et que sang, et qui croit Dieu bien loin, se trompe en maudissant. Il ne sait pas, captif dans sa courte pensée, que d'une œuvre finie une autre est commencée, et qu'afin que les plis divins puissent y germer, on laboure la terre avant de la semer. Oh, que nos jugements sont courts et feraient rire dans le livre de Dieu celui qui saurait lire. Que nous comprenons peu les dénouements du sort et que souvent la vie est prise pour la mort. La caravane humaine un jour était campée dans des forêts bordant une rive escarpée. Et ne pouvant pousser sa route plus avant, les chaînes l'abritaient du soleil et du vent. Les tentes, aux rameaux enlaçant leurs cordages, formaient autour des troncs des cités, des villages, et les hommes, épars sur des gazons épais, mangeaient leur pain à l'ombre et conversaient en paix. Tout à coup, comme atteints d'une rage insensée, ces hommes, se levant à la même pensée, portent la hache au tronc, font crouler à leurs pieds ces dômes où l'ennemi s'était multiplié. Et les brutes des bois sortant de leurs repères, et les oiseaux, fuyant les cimes séculaires, contemplaient la ruine avec un œil d'horreur, ne comprenaient pas l'œuvre et maudissaient du cœur cette race stupide acharnée à sa perte, qui détruit jusqu'au ciel l'ombre qui l'a couverte. Et pendant qu'en leur nuit les brutes des forêts avaient pitié de l'homme et séchaient de regret, l'homme, continuant son ravage sublime, avait jeté les troncs en arche sur l'abîme, sur l'arbre de ses bords gisant et renversé. Le fleuve était partout couvert et traversé, et, poursuivant en paix son éternel voyage, la caravane avait conquis l'autre rivage. C'est ainsi que le temps, par Dieu même conduit, passe pour avancer sur ce qu'il a détruit. Esprit Saint, conduis-les comme un autre Moïse, par des chemins de paix, à la terre promise. Paris, 21 septembre 1800, le soir. quelle fièvre! Oh, chassez l'image qui me tue! Est-ce un songe? Est-ce une ombre? Est-ce celle que j'ai vue? Oh, c'est elle, ô mon cœur, tu ne peux t'y tromper. Nul autre d'un tel coup ne pouvait te frapper. La revoir. Mais montrer au doigt, mais avilie. Oh, dans ma coupe encore il manquait cette lie. Hier, j'étais allé le soir dans un saint lieu pour entendre prêcher la parole de Dieu par un vieillard du temple échappé du martyr dont la voix sur ce peuple a reconquis l'empire. La foule remplissait le portique et les murs. Caché dans l'ombre, au pied d'un des piliers obscurs, où les cierges du cœur qui brûlaient par centaines jetaient obliquement leurs lueurs incertaines, j'attendais que le flot du peuple débordé, tribune, stalle, nef, chœur, eût tout inondé, et le front dans mes mains, appuyé sur la pierre, j'entendais sans les voir les pas ou les derrière, et tout autour de moi les groupes curieux qui causaient à voix basse en promenant leurs yeux. Tout à coup s'éleva comme un murmure immense d'épis sur les sillons quand la brise y commence. J'entendis frôler l'air, et d'un plumage mouvant sur ma brûlante peau mon front sentit le vent. Les rangs pressés s'ouvraient de même, faisait place puis se refermait soudain sur une trace. Ce n'était que rumeur, exclamation, d'étonnement, d'ivresse et d'admiration. Un instinct machinal me fit tourner la tête pour voir l'objet charmant de la foule distraite. Mais il n'était plus temps. La femme avait passé. Son sillon dans l'église était presque effacé. Je ne vis qu'une taille et des épaules nues, où flottaient sous les fleurs des tresses répandues, et qu'un sourire errant et l'amoureux regard annonçaient, devançaient, suivaient de toutes parts. « C'est bien elle !» disait un jeune homme. « Oh oui, c'est elle !»« Ce ciel dont on nous berce en a-t-il d'aussi belle ?» Non, jamais, ces pavés n'ont frémi sous les pas d'anges aussi divins que l'ange d'ici-bas. Elle, lui répondait son voisin, c'est son ombre peut-être, car du temple elle craint jusqu'à l'ombre, et jamais ces beaux pieds d'adorateurs suivis n'ont foulé pour prier la poudre des parvis. Oh, c'est là son seul défaut, hélas, la pauvre femme. On dit qu'au désespoir, elle a vendu son âme. On ne l'a vu jamais s'approcher du saint lieu. Elle fait croire au ciel, elle ne croit pas à Dieu. Mais c'est elle, cependant, tiens, en veux-tu la preuve? Regarde sa ceinture et son collier de veuve. Vois celui qui l'amène. Eh bien, c'est lui! Lui, le martyr d'hier et l'élu d'aujourd'hui, qu'il sera au bonheur, car demain... Quel dommage qu'une beauté si pure, ô Dieu, soit si volage, ou plutôt, quel bonheur qu'elle fasse courir la coupe où chacun veut s'enivrer et mourir. Mais nos sermons, mon cher, que viendrait-elle faire? Bon, elle y vient comme nous, parfois, pour se distraire, pour entendre des mots saintement cadencés, ou sur l'orgue des airs qu'elle n'a pas lancé. Car on dit que, depuis sa première aventure, de l'orgue dans ses nuits, elle aime le murmure. Sans doute en souvenir du beau mugissement qu'elle entendait si haut chez son premier amant, tu sais. Mais l'orateur, se levant de la chaire, murmura sourdement son texte et les fit taire. Il parla du bonheur de mourir pour la foi, des martyrs immolés pour l'Église et le roi, et sur leurs orphelins, évoquant leur mémoire, toucha jusqu'aux sanglots son immense auditoire. Des larmes de pitié montaient à tous les yeux. Chacun se dépouillait de son dernier pieu. Une femme, on disait qu'orpheline elle-même des malheurs de ses temps, elle était un emblème, d'un vieillard précédé, une bourse à la main, parmi les rangs émus se frayait un chemin, et faisant résonner le don dans la corbeille à la sainte pitié, sollicitait l'oreille. On entendait au loin que sa timide voix. Le prêtre, qui frappait le pavé de sa croix, ou du dernier sacré la chute monotone qui sonnait en tombant dans l'urne de l'aumône, des rangs voisins du mien, bientôt elle approchait. D'avance, dans mon sein, déjà, ma main cherchait l'obole de l'autel, quand, relevant la tête, mon regard dans le sien se rencontre et s'arrête, et comme fasciné par l'œil qu'en vain il fuit, chacun de nos regards suit l'autre qui le suit. Elle semblait chercher, à travers un nuage, à distinguer de loin les traits de mon visage, et je voyais le sien dans mon œil revenir, comme une ombre montant du fond d'un souvenir. À chaque pas de plus, la fatale figure m'entrait plus rayonnante au cœur, mais à mesure que mon œil ébloui, qui plongeait dans le sien, fixait son œil ouvert et fixe sur le mien, comme si tout son sang eût coulé par sa vue, je la voyais pâlir et changer en statue, la prunelle immobile et le pied suspendu, le cou penché, le doigt vers ma place étendu, faire un pas, reculer, dans son sein qui se pâme, chercher un cri qui meurt et qui manque à son âme, puis enfin, sans couleur, sans voix et sans regard, glisser inanimé au bras du saint vieillard. Moi-même, sans jeter un cri, sans faire un geste, j'étais mort de sa mort, et j'ignore le reste. Quand je me réveillais comme de mon tombeau, la nef était muette et vide. Un seul flambeau brillait comme une étoile au cintre de l'église. Le soir, dans les vitraux, faisait teinter la brise. L'heure sonnait 8 coups au cadran de la nuit. De pilier en pilier, je m'échappais sans bruit. À force de douleur, mon âme était tarie. La revoir, mais c'était trop. Mais la revoir flétrie, mais la revoir tombée, ange d'illusion, le scandale du monde et sa dérision, par moi, par mon amour, par ma vertu peut-être. Oh, quel doute mortel en moi se sent renaître, ange que le bonheur aurait sacrifié, Dieu ce serait, c'est moi qui l'ai sacrifié. Stances à Laurence. 22 septembre 1800. Vous, l'ange d'autrefois, maintenant pauvre femme, vous ne vous trompiez pas, Laurence, c'était moi. C'était moi qui cherchais la moitié de mon âme. Hélas, et qui la pleure en toi. Tu vis. De quelle vie, ô ciel, quels mots étranges. Dans le cuivre et le plomb, diamant enchâssé, que Dieu laissa tomber sur la route des anges et que l'impie a ramassé. Souviens-toi de ce ciel vu de si près ensemble, du jour de la rencontre et du jour de l'adieu. Oui, je fus meurtrier, oui, cette main qui tremble t'immola, mais c'était à Dieu. Sacrifice insensé que ta faute condamne, vaine immolation de mon cœur combattu, ce que je respectais, un autre le profane, et l'enfer rit de ma vertu. Ô Laurence, un retour au Dieu de ton jeune âge, un retour vers l'ami, grand Dieu. Dans ma douleur, je n'avais ici-bas conservé qu'une image, ne la ternis pas dans mon cœur. Reviens, reviens au ciel qui te pleure et qui t'aime. Si ce n'est pour ton âme, ô Laurence, pour moi. Et s'il te faut de l'eau pour un second baptême, ô mes yeux, en pleure pour toi. Ici deux, un plus haut. De notre double vie, non, il n'est pas brisé l'invisible lien. Ton cœur avec mon cœur monte et se purifie, ou mon cœur saigne avec le tien. Oh, quand jetant ton âme aux voluptés impures, tu ternis ce lys blanc que je t'avais gardé, penses-tu quelquefois que tu souilles d'ordure ce cœur où Dieu s'est regardé? Penses-tu quelquefois que tu troubles cette onde qui, sous un souffle humain bien loin de se ternir, ne devait réfléchir au soleil de ce monde qu'un espoir et qu'un souvenir? Ô moi, qui te voyais dans mes songes, Laurence, à travers tant de pleurs, chaste auprès d'un époux, une ombre sur le front, au cœur une espérance, et des enfants sur tes genoux. À Paris, 26 septembre 1800. Nuit funeste. Depuis que le maître a paru et que je sais le nom et l'hôtel et la rue, chaque fois que je sors, l'instinct traîne mes pas vers ce seuil de mon ciel que je ne franchis pas. Mais où, couvert de nuit, j'écoute de la porte que quelques voix du ciel ou de la terre en sortent. Comme Adam, exilé des jardins du Seigneur, écoutait s'éloigner les voix de son bonheur. Cette nuit, comme hier, je m'y glissais dans l'ombre. Des nuages au ciel rendaient l'hôtel plus sombre, et la pluie, en lavant les pavés à grands flots, de mes pas dans la rue étouffait les échos. Les pieds dans le ruisseau, le front sous la gouttière, je m'assis dans un angle au bord du banc de pierre, sur la borne en granit du coude m'appuyant, et tout caché dans l'ombre ainsi qu'un mendiant. C'était l'heure où Paris, en jour transformant l'ombre, en tonnerre incessant roule ses choses sans nombre, où sur la roue en feu, ses enfants emportés vont chercher au hasard leurs mille voluptés. Au cri des serviteurs, les portes colossales aux chars retentissants s'ouvraient par intervalles, et j'y voyais briller à travers le cristal des flots resplendissants de l'ivresse du bal. J'entendais au-dedans ces voix d'hommes, de femmes, ces sons des instruments, ces bourdonnements d'âme, où l'oreille en vain cherche une phrase à saisir, qui ne sont que la brise errante du plaisir. Cette joie, en sortant de ces froides murailles, m'enfonçait chaque fois un fer dans les entrailles, et j'aurais moins souffert. Pardonne à mon remords, Seigneur, d'en voir sortir l'agonie et la mort. Un torrent de pensées me roulait dans la tête, si j'entrais tout à coup au milieu de la fête, et si frappant d'un regard ses yeux pétrifiés, comme l'ombre des temps par son cœur oublié, et renversant du pied ses vases de délices, du nom tonnant de Dieu j'effrayais tous ses vices. Si, dérobant à cet ange à l'air qui la corrompt, je rendais l'innocence et la vie à son front. Hélas, et de quel droit suis-je encore son père? N'ai-je pas renoncé même au doux nom de frère? Et ne sommes-nous pas, depuis l'heure d'adieu, l'un à l'autre étranger partout, hormis en Dieu? Oh, c'est donc en Dieu seul que je puis en silence bénir, prier, nommer, chercher, pleurer, Laurence. Elle pour qui 100 fois j'aurais voulu mourir, Seul à son aide, ô Dieu, je ne puis accourir, et de la froide borne en embrassant la pierre, mes yeux fondaient en onde et ma bouche en prière. Pardonne-lui, mon Dieu, de chercher ici-bas cet amour que tu mis tout enfant sous ses pas. Après avoir vécu 2 ans dans ses délices, de le puiser encore au profane calice. Ah, moi seul, ô mon Dieu, j'ai creusé dans son cœur ce vide que ne peut combler un froid bonheur. Que la peine sur moi retombe avec le crime. Frappez le tentateur et non pas la victime. Ô tendre, ô bon pasteur, rapporte dans tes bras cette brebis tombée au piège d'ici-bas. Cette âme qui puisa l'amour avec la vie et qui l'aspire encore à sa source tarie. Si tu n'avais brisé sa coupe entre ses dents, qui sait ce que le ciel aurait versé dedans? Qui sait de quel trésor cette âme est encore pleine? Et comme des cheveux d'une autre Madeleine, pour laver dans ses pleurs ses péchés oubliés, ce qui leur coûterait de parfum sur tes pieds. Oh, que les miens, Seigneur, comptent à ses paupières, que par mes nuits sans fin, mes jeûnes, mes prières, que par l'eau de mes yeux son péché soit lavé, et j'allais à genoux tomber sur le pavé, quand les groupes joyeux du bal qui se retirent m'éveillèrent du ciel par des éclats de rire. Le bruit avait cessé, le monde était sorti, des gonds et des verrous l'air avait retenti. J'entendis sur ma tête ouvrir une fenêtre. La lune dans le ciel venait de reparaître. L'ombre des lourds balcons, me couvrant d'un pan noir, me noyait dans sa nuit, d'où je pouvais tout voir. Une femme parut au balcon. C'était elle. Quoique pâle et lassée, ô Dieu, qu'elle était belle! Comme le monde avait, sous son précoce été, mûri sans la flétrir l'angélique beauté. Comme sous ce costume et cette autre apparence, mes regards, trait pour trait, retrouvaient tout Laurence. Lui, dans elle a grandi, mais toujours elle en lui. Son cou penché semblait porter un vaste ennui. Son coude s'appuyait sur la rampe dorée, sa joue au clair de lune était décolorée. Ses blonds cheveux, déjà de son front détachés, sur le fer du balcon flottaient tout épanchés. Et je sentais l'odeur du vent qui les caresse, s'échapper en parfum de l'or de chaque tresse. Oh, des fleurs qui tombaient de ses cheveux l'odeur, comment n'eût-elle pas enivré tout mon cœur? Elle leva la tête et regarda la lune, longtemps, comme quelqu'un qu'une image importune. Avec un lent soupir, elle étendit les bras, puis en les refermant sur son cœur, dit « Hélas !» Puis d'un accent distrait qu'un regard accompagne, murmura dans ses dents notre air de la montagne. À voix basse et tremblante, en chanta quelques mots. L'air manqua sur sa lèvre et finit en sanglots. Elle s'interrompit comme avec violence, referma la fenêtre, et tout devint silence. Ô mon image alors, Laurence, était en toi. Je n'avais que 2 pas entre mon ciel et bois. Qu'une vague de l'air pour y monter, à fendre, qu'un souffle à laisser fuir, qu'un nom à faire entendre. Et mon amour perdu retombait dans mes bras, et l'enfer ni le ciel ne rachait pas. Des doux sons de sa voix, mon oreille était pleine. L'air qu'elle respirait lui portait mon haleine. Un cri sortit du cœur, un geste, un mouvement, et nos cœurs confondus n'avaient qu'un battement. Et dans un seul élan, nos âmes assouvies franchissaient pour s'unir l'abîme de nos vies. Tu triomphas, mon Dieu, de ma fragilité. Mon silence entre nous remet l'immensité. Je m'éloignais tremblant, son ombre sur ma tasse, et je remis mon âme et la sienne à ta grâce. En route 28 septembre, l'aurore dans Paris ne me retrouva pas, et mon cœur est déjà là-haut, où vont mes pas.